Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour Régis.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Odile. Voilà, nous reprenons notre émission pour la dignité, l'émission d'Amnesty International, après une interruption due aux vacances et puis aussi à la pandémie. Alors voilà, donc en cette rentrée, je vais vous parler de la façon dont vous pouvez devenir membre d'Amnesty International, rejoindre ce grand mouvement mondial de défense des droits humains. On parlera du dérèglement climatique et des droits humains. On parlera d'un cas particulier, Ténika Somerville, une infirmière américaine. On parlera à nouveau de la situation des migrants en Libye. Et puis, bien sûr, annoncer les activités du groupe Dinois, dont notamment celle qui arrive très vite, là, c'est notre foire aux livres, puisqu'elle elle va avoir lieu le 9 et 10 octobre, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain, à l'Atrium. Alors, on a agrandi la plage horaire. Le vendredi, on va ouvrir le matin, de 9h à 12h, et puis de 14h à 19h30. Et le samedi 10 octobre de 9h à 18h comme d'habitude. Voilà, normalement on n'ouvrait pas le vendredi matin. Là, on va prendre une plage horaire plus grande parce que bien sûr, il faut respecter les gestes de protection et puis un nombre limité dans la salle. Donc il faudra que les gens ne restent pas des heures et des heures. Donc on va mettre un petit peu moins de livres et on mettra tous les livres qu'on nous a donné depuis la dernière fois au livre, qui date d'un an, puisqu'on n'a pas pu faire celle du printemps. Donc, on a énormément de nouveautés. Voilà, donc tous les amateurs de livres pourront venir, ainsi que ceux qui veulent un peu connaître Amnesty. Il y aura bien sûr un stand de signature de pétition. Voilà, et donc il faudra être masqué et bien se laver les mains à l'entrée pour pouvoir signer les pétitions et puis toucher les livres sans danger pour les autres. Voilà, donc on va commencer. Donc, comment devenir membre d'Amnesty International? Alors, bien sûr, si vous voulez le respect des libertés fondamentales, l'égalité dans l'accès aux droits, notamment celui à la santé, vous voulez des mesures concrètes contre l'impact du dérèglement climatique sur les droits humains, pour construire le monde plus juste auquel nous aspirons de toutes nos forces, nous devons encore nous battre et nous avons besoin de vous tous. Notre combat pour un monde plus juste ne se gagne pas en un jour. Il exige du temps, de la persévérance, des femmes et des hommes qui se tiennent chaque jour à nos côtés. Il réclame aussi des moyens pour agir dans l'urgence comme dans la durée. Donc, si vous voulez rejoindre ce vaste mouvement, vous allez sur le site amnesty.fr. Et vous avez un formulaire en ligne à remplir. Alors bien sûr, il faut adhérer aux valeurs de l'association. Vous recevez ensuite une carte de membre. Et ensuite, vous êtes libre d'arrêter quand vous voulez, ou de modifier. Voilà. Donc devenir membre, c'est défendre jour après jour le droit à la liberté, à la justice, à la dignité humaine. Vous donnez aux chercheurs d'Amnesty International le pouvoir d'enquêter sur le terrain, d'agir et d'alerter avec les militants partout dans le monde. Vous rejoignez un mouvement militant réunissant 7 millions de personnes à travers le monde. Vous ajoutez votre voix à celle de milliers d'autres pour mobiliser l'opinion publique, quels que soient les obstacles. Vous donnez la possibilité de lutter pour la défense des droits humains partout dans le monde. Vous participez à l'indépendance financière d'Amnesty International pour lui permettre d'agir en toute liberté et dans le respect de ses convictions. Vous lui permettez d'avoir les ressources nécessaires pour agir en urgence lorsque la liberté ou la vie d'un homme ou d'une femme sont en danger. Devenir membre, c'est aussi être au cœur de l'actualité. Vous bénéficiez d'informations fiables et exclusives sur la situation des droits humains dans le monde. Et Amnesty International est reconnu mondialement pour la qualité de sa recherche et la fiabilité de ce qu'elle annonce. Vous aurez aussi des outils de réflexion pour agir concrètement et faire de chaque combat une victoire. Et puis vous disposerez d'informations précises et transparentes sur l'utilisation des fonds. Devenir membre, c'est choisir votre degré d'investissement et avoir le pouvoir d'aller plus loin pour faire entendre votre voix. Donc vous pouvez simplement être membre et puis signer les pétitions en ligne de temps en temps. Là, ça prend très peu de temps. Vous pouvez participer à la vie de l'association en soutenant les campagnes d'action et de sensibilisation, la signature de pétitions, la participation aux actions de terrain. Donc là, vous pouvez le faire de vous-même en tant que membre d'Amnesty, mais vous pouvez aussi rejoindre un groupe. Donc si vous êtes dans la région de Digne-les-Bains, vous pouvez rejoindre le groupe de Digne. Si vous êtes du côté de Manosque, vous pouvez rejoindre le groupe de Manosque. Et si vous êtes du côté de Barcelonnette, vous pouvez rejoindre le groupe de Barcelonnette. Voilà les trois groupes qui existent sur le département. Et puis, bien sûr, vous pouvez prendre au débat et réflexion et assister à l'Assemblée générale d'Amnesty France si vous souhaitez orienter les prochaines victoires. Voilà. Donc, devenir membre, c'est transformer votre indignation en action. Alors, on va maintenant écouter un membre d'Amnesty qui a créé une chanson pour Amnesty. Il s'appelle Jacques Lair, c'est un Dinois. Et voici sa chanson « Amnesty, Amnesty ».
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faible essaie d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, je n'ai joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer 6 pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, Amnesty, Amnesty. Allume ta bougie, Amnesty, Amnesty. Écris-moi, je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre, sous les ailes de la colombe. seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme. Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie tes coups de plume sur le monde. Ouvre la cage de ma colombe. Amnestie, amnestie, allume tes bougies. Amnestie, amnestie, écris-nous je t'en prie. Amnestie, amnestie, j'allume ma bougie. Amnestie, amnestie, pour libérer, j'écris.
Voilà, très belle chanson de Jacques Lair. Un grand merci à lui. On va parler maintenant de dérèglement climatique et droits humains. Le changement climatique est considéré comme l'une des questions majeures de notre époque. C'est ce que révélait une enquête réalisée auprès de plus de 10 000 jeunes et publiée par Amnesty International quelques mois seulement avant que la pandémie ne vienne chambouler le monde. D'ailleurs, 2020 devait être l'année de l'action climatique. Elle s'est muée en année de crise sanitaire avec l'arrivée du Covid-19. L'impact de la pandémie ne saurait être sous-estimé. Il faudra du temps pour s'en remettre. Mais l'inaction climatique ne doit pas être une compensation politique. Les jeunes marchent depuis plus d'un an et demi, mais le contexte sanitaire a poussé cette fois les jeunes d'Amnesty à réaliser une vidéo pour fêter l'anniversaire de notre mobilisation pour le climat et pour appeler à respecter les droits humains impactés par la crise climatique. Nous sommes solidaires de tous les enfants et jeunes qui prennent part aux grèves pour le climat. Grâce à cette vidéo, les jeunes peuvent amplifier le mouvement en faveur du respect des droits humains. Vidéo que vous pouvez voir sur le site amnesty.fr. Dans le cadre de l'accord de Paris, les États doivent publier d'ici la fin de l'année leur plan climatique pour présenter des objectifs plus ambitieux pour répondre aux défis posés par le changement climatique. Or, à ce jour, seulement 13 pays ont présenté des plans. La France doit faire parvenir sa contribution à l'Union européenne, mais cette dernière n'a toujours pas rendu sa copie pour 2020. En l'état actuel, les engagements de l'Union européenne, sont insuffisants pour remplir les objectifs de l'accord de Paris. Il manque clairement d'ambition. De même que les plans d'un certain nombre de pays riches qui contribuent pourtant depuis longtemps au changement climatique et affichent les plus hauts niveaux d'émissions. Plusieurs pays, dont la France, ont même autorisé les entreprises du secteur des énergies fossiles, de l'aviation et d'autres entreprises émettrices de carbone à bénéficier de mesures de relance économique, telles que des réductions d'impôts et des prêts. Ces avantages sont trop souvent accordés sans aucune condition. La crise climatique affecte les droits de millions de personnes à la nourriture, à l'eau, à la santé et à la vie. Des millions subissent déjà les effets désastreux du dérèglement climatique. Depuis les inondations dévastatrices qui ont submergé un tiers du Bangladesh, sans parler de celles qui viennent de se passer dans notre pays du côté de Nice et en Italie, jusqu'aux incendies d'une ampleur sans précédent qui ravagent la côte ouest des États-Unis, pour citer des exemples récents. Le dérèglement climatique touche particulièrement les personnes déjà défavorisées ou victimes de discrimination, creusant les inégalités et les injustices. Les enfants, dont le système immunitaire est sous-développé, et notamment les plus marginalisés, sont particulièrement exposés aux conséquences sanitaires du dérèglement climatique. Malnutrition découlant des changements dans les récoltes et les moissons, maladies transmises par les moustiques comme la malaria et décès dus aux vagues de chaleur. L'action climatique doit être au cœur des plans de relance post-pandémie. Alors que les dirigeants du monde sont rassemblés à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies et que les ministres de l'énergie du G20 doivent se rencontrer, nous demandons au gouvernement de placer l'action climatique et les droits humains au centre de leur plan de relance post-pandémie. Ils doivent adopter des projets favorisant les économies visant la neutralité carbone, cesser de renflouer et de subventionner sans condition les entreprises du secteur des énergies fossiles et investir dans des entreprises qui assurent une transition juste et respectueuse des droits humains. La pandémie nous montre également que de nombreux gouvernements sont capables de prendre les mesures d'urgence, urgentes et décisives qui sont précisément nécessaires pour remédier à la crise climatique. Quand les enjeux sont si élevés, même ceux qui bénéficient du statu quo sont prêts à le remettre en cause. Les citoyens soutiennent les mesures de protection raisonnables prises par les gouvernements pour protéger la population, même lorsqu'elles impliquent des changements radicaux dans leur vie quotidienne. Les dirigeants doivent se départir de la vision étroite induite par la pandémie et s'engager en faveur du bien-être sur le long terme des populations. La COVID-19 a conduit de nombreuses personnes aux limites de leur capacité de survie et a mis à l'épreuve notre résilience collective. Mais il a aussi ravivé notre détermination à façonner un avenir radicalement différent, un monde plus juste, équitable et durable, bénéfique pour nos enfants et nos petits-enfants. On va écouter maintenant un rap belge, Pang, dans leur chanson « Fais-le ».
Plein de produits locaux, c'est sain, de panier bio. Viens, viens, rejoins le réseau. Tiens, 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 prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable.
Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé. Que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Ouais, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit. À mon image, je vous ai modelé. Prends le pouvoir de l'univers. À toi de faire.
Fais-le.
Plus rien à bouffer, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et levain, une heure après, j'ai fait mon pain. Deux pas dans le jardin, je cueille tomates et mesclins. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le v'là qui débarque avec ses falafels au cul, main 100% fait main. Tel sera notre festin, ouais.
Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derge. Si t'as des cruches, fais-les. Que t'as chaud, que t'as séché, fais-l'eau. Que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-lui. Si t'es un chat, fais-l'un. Que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit. T'es jouette, fais-loi. Fais ton pain, fais le vin, fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin, fais en mandarin. Fais ta main, fais du lien, fais du gras à ta fétien. Fais un rien, on s'en fout ou sois fou, fais tout.
Voilà une chanson sympathique de ce groupe belge, Pang. On va parler d'un cas maintenant, parce qu'on s'occupe aussi de cas individuels à Amnesty. On va parler de Ténica Somerville, qui est une aide-soignante depuis 20 ans. Le 2 avril 2020, elle a été licenciée après avoir dénoncé le manque d'équipement de protection dans la maison de retraite où elle travaillait aux États-Unis. À bientôt 40 ans, Tanika a 8 enfants. Chaque jour, elle se rendait à Bridgerway Medical Center dans l'Illinois, aux États-Unis, pour aider les résidents à se laver, leur servir leur repas, contrôler leurs paramètres vitaux et leur tenir compagnie. Avec l'arrivée de la pandémie du Covid-19, les membres du personnel soignant de l'établissement se sont retrouvés en première ligne. Pourtant, selon Tanika, les employés de la maison de retraite manquaient de respirateurs N95, de surchaussures et de charlottes, et ils étaient contraints de réutiliser plusieurs fois les mêmes blouses et de les partager. Confrontés à des conditions de travail susceptibles de mettre la santé du personnel soignant en danger, Tanika a dénoncé le manque d'équipement de protection individuelle. Le 2 avril 2020, elle a été licenciée. Tanika est actuellement en attente d'un arbitrage dans le cadre d'une procédure de règlement des conflits avec la maison de retraite dans laquelle elle travaillait. L'audience a eu lieu, mais je n'ai pas eu les résultats encore. Le cas de Tanika est loin d'être isolé. Aux États-Unis, où plus de 1000 soignants sont déjà décédés du Covid-19, de nombreux membres du personnel de santé ont dénoncé leurs conditions de travail dangereuses et le manque de matériel de protection, des préoccupations légitimes auxquelles certains employeurs ont répondu par des pressions ou des comportements abusifs. Le personnel soignant en première ligne du virus doit être protégé et non pas menacé. Nous devons soutenir Tanika dans son combat. Voilà, donc on prend cet exemple bien précis, mais cet exemple, on le retrouve un peu dans beaucoup de pays, hein, où les gens qui dénoncent sont ennuyés par l'administration jusqu'à être licenciés. Donc vous pouvez agir, hein, vous allez sur le site d'amnesty.fr, vous recherchez dans le moteur de recherche Tanika Somerville, et vous verrez que vous pouvez agir sur Twitter, sur Instagram, envoyer des messages de soutien directement sur son adresse mail. Voilà, donc en fait, c'est l'adresse d'Amnesty USA qui ensuite lui transmettra votre message de soutien. Dans la dernière émission que j'ai faite ici, je m'étais élevé contre l'utilisation des tests osseux pour déterminer l'âge de migrants. Et en effet, tous les scientifiques, les médecins, l'ordre des médecins s'est élevé contre cette utilisation. Les tests osseux, normalement, sont faits pour une utilisation médicale. Et là, l'administration s'en sert et demande à des médecins de pratiquer ces tests osseux pour déterminer un âge de migrant. Sachant que les migrants, quand ils arrivent chez nous, s'ils sont moins de 18 ans, ils doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, comme tout enfant en danger sur notre territoire, quel que soit le pays d'où il vient. Voilà, donc il arrive parfois, même assez souvent, qu'on conteste la minorité, on conteste les papiers qu'ils ont, et on leur fait pratiquer des tests osseux. Mais ces tests osseux, d'abord, ils ont été élaborés dans les années 1930-1940 sur une population américaine riche qui avait des problèmes de développement corporel. Donc c'était vraiment dans un but thérapeutique. Et là, on les pratique, ces tests osseux, donc très anciens, sur une population jeune d'Afrique et d'Asie, population pauvre aussi. Et donc c'est absolument pas fiable. Et on en a eu...
Il y a eu des cas sur Digne.
Et d'ailleurs, la juge des enfants a reconnu la minorité de la personne. D'un jeune donc à 16 ans, hein, et alors que le test osseux lui donnait, d'après le médecin qui a pratiqué ce test osseux, 19 ans, plus ou moins 2 ans. Donc ce résultat de test osseux de 19 ans était donc faux. Et la procureure, en voyant 19 ans, sans regarder que ça pouvait être au moins 2 ans, ou plus de 2 ans, a dit « bon, ben alors il est majeur » et l'a exclu du service de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un jeune qui allait se retrouver dans la rue. Voilà, alors on l'a récupéré pour pas qu'il soit à la rue. Et puis l'appel, il est passé devant le juge des enfants qui a reconnu sa minorité. Donc il est à nouveau pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et va être dans une famille d'accueil. Donc va pouvoir continuer... reprendre une formation, hein, puisque c'est un jeune qui n'avait pas eu de formation du tout, qui n'avait pas pu aller à l'école, et qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître. Voilà.
Juste une petite parenthèse par rapport au centre qui accueillait les migrants mineurs, c'est ça, hein?
Oui, alors c'était
à Chantercier, ils ont fermé leurs portes. Est-ce qu'il reste encore quelques
alors voilà,
jeunes?
Donc le centre de Chandouraine, au départ, c'était pour des adultes qui étaient à Calais, dans la jungle de Calais, quand ils ont démantelé cette jungle. Et puis ensuite, ces adultes sont partis et ce sont des mineurs non accompagnés qui sont arrivés et qui ont été pris en charge dans ce centre de Chandouraine. Là, il a fermé pour des raisons de sécurité, puis le propriétaire voulait récupérer les bâtiments. Et ils sont maintenant installés dans l'ancien évêché, là. Donc là où il y avait l'évêque. Hein, donc l'avantage, c'est que c'est au centre de Digne. Et donc c'est toujours Coalia, hein, qui gère ce centre. Et quand les mineurs non accompagnés arrivent sur Digne, ils sont orientés ici en attendant de vérifier leur minorité, etc., et de voir où c'est qu'on peut les placer, les protéger. Voilà.
Merci pour ces informations, Régis. On va pouvoir écouter donc Comprendre le droit à la santé.
Oui.
Voir pour comprendre, l'accès à la santé. Nous le savons tous, en 2020, l'humanité a commencé à faire face à une grave crise sanitaire. Pour éviter la propagation du Covid-19, la plupart des pays ont pris des mesures de distanciation physique importantes, comme le confinement d'une grosse partie de la population. En plus des conséquences dramatiques qu'on lui connaît, qu'elles soient sanitaires ou économiques, cette crise nous re-questionne sur l'accès aux services de santé et les inégalités existantes. Car oui, comme vous le savez, tout le monde n'a pas accès aux soins de la même manière, qu'on soit en période de pandémie ou non. En effet, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, les groupes les plus vulnérables en marge de la société ont tendance à supporter une part beaucoup trop élevée des problèmes de santé. Ainsi, 100 millions de personnes dans le monde passent chaque année sous le seuil de pauvreté en raison de leurs dépenses de santé. Une situation terrifiante, vous en conviendrez, sur un sujet qui nous concerne évidemment toutes et tous directement, notre santé. Mais rassurons-nous, il existe bel et bien un droit à la santé. Un droit très large, qui recouvre à la fois le logement, l'accès à l'eau, l'accès à une alimentation saine. Du coup, on a décidé de se concentrer sur un point spécifique, l'accès aux soins. Il existe tout d'abord des règles internationales, notamment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Ce pacte, signé en 1966, donc ça date pas d'hier, précise que les États reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Pour faire simple, tout le monde a le droit à la meilleure santé possible et les États doivent pouvoir l'assurer. Bon, c'est un début, mais ça s'arrête pas là. De très très nombreux textes de loi partout dans le monde viennent renforcer le caractère universel de cet accès à la santé, en particulier pour les personnes les plus précarisées ou les plus marginalisées. Comme par exemple l'article 24.1 de la Convention des droits de l'enfant, les articles 10, 11, 12 et 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les articles 35 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 161 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 10 sur le droit à la santé du protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, etc., etc. Le message est clair et répété depuis longtemps, peu importe le genre, le sexe, l'âge ou même le revenu, ça doit rien changer, chacun doit avoir le droit d'accéder aux services de santé. Pourtant, on l'a dit juste avant, la réalité est tout autre. Dans de nombreux pays à travers le monde, les inégalités et les violations de ces droits élémentaires persistent. Petit tour d'horizon de ce qui se passe avec quelques cas concrets. En Jordanie, les réfugiés syriens ont tout le mal du monde à accéder à un système de santé de base. En Chine, les personnes transgenres risquent leur vie en s'opérant elles-mêmes. Un pays d'ailleurs où l'accès à l'information médicale est aussi régulièrement bloqué. Au Zimbabwe, de nombreuses adolescentes sont exposées à de graves risques de mourir en couche car les lois les empêchent d'avoir accès aux services de santé. Au Venezuela, les personnes séropositives peinent à suivre correctement un traitement médical. Au Tchad, les coupes budgétaires sur des secteurs sociaux essentiels ont un effet dévastateur sur l'accès à la santé de la population. Et en Europe aussi, les personnes en extrême précarité subissent des violations de leurs droits fondamentaux, exclusion des services de santé, discrimination, manque de suivi médicaux, etc. On le voit bien, on peut faire vraiment mieux en termes d'universalité. Arrêtons-nous maintenant sur un sujet important, le droit à l'avortement. Interrompre une grossesse, c'est une décision qui concerne des millions de personnes chaque année, et vous le savez probablement, son accès n'est pas le même partout dans le monde. Certains pays refusent encore aujourd'hui de le légaliser. On le sait pourtant bien, la criminalisation de l'avortement ne le rend pas moins fréquent, mais tout simplement plus dangereux. Cette pratique devient alors plus risquée lorsqu'elle n'est pas réalisée et suivie par des professionnels de santé qualifiés et dans des bonnes conditions d'hygiène. En un mot, commençant, l'accès à l'avortement doit être autorisé et dépénalisé partout dans le monde. Enfin, terminons ce tour du monde par l'Espagne. Lors de la crise financière 2008, les réductions des budgets nationaux sont drastiques. Et comme vous pouvez vous en douter, elles concernent aussi les dépenses publiques en matière de santé. Et ça ne s'arrête pas là, car il s'en est suivi toute une série de mesures visant à trancher de plus en plus dans les dépenses de l'État en matière de santé. Des résultats catastrophiques ne se sont pas fait attendre, et bien entendu, les plus touchés par ces décisions politiques ont d'abord été les populations les plus fragiles. Des patients atteints d'un cancer nous ont confié qu'ils n'avaient plus les moyens de se procurer les médicaments dont ils avaient besoin pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple. Des personnes souffrant de troubles mentaux, quant à elles, ont vu leurs aides brutalement supprimées. Ces réductions des dépenses ne sont pas simplement dangereuses, elles sont aussi terriblement cruelles. Si on doit retenir une chose de tout ça, c'est que l'accès aux soins constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. L'accès aux soins ne doit souffrir d'aucune discrimination, comme doivent l'être l'accès à l'eau et à une alimentation saine. Les États doivent assurer un service et du matériel médical suffisant à l'ensemble de leur population, qu'on soit riche, pauvre, réfugié, migrant, précaire, peu importe, ces biens et ces services doivent être accessibles facilement et partout dans le monde. Ils doivent être abordables pour tous, quels que soient leurs revenus et leur statut. Les lois et les politiques nationales doivent être mises en place de manière transparente. Les personnes doivent pouvoir demander réparation si leur droit à la santé est violé. En résumé, les États doivent mener des politiques de santé centrées sur le respect des droits humains. Des recommandations, il en existe plein d'autres, et c'est aujourd'hui très important que les États les entendent et coopèrent ensemble, d'autant plus après la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 que l'humanité connaît. Agissons aujourd'hui car, comme le questionnait Socrate, existe-t-il un bien plus précieux que la santé ?
Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez réécouter si ça vous intéresse sur le site amnesty.fr. Ça s'appelle « Voir pour comprendre » et vous verrez qu'il y a plusieurs petites vidéos sur le droit à la santé, le droit des enfants, la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur un ensemble de thèmes ayant un rapport avec les droits, bien sûr. On va écouter maintenant, pour rester un peu dans le sujet, Grand Corps Malade qui chante avec Louane et qui dit un beau texte de Grand Corps Malade, Derrière le brouillard.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Thank you.
Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Il n'y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Il n'y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Il n'y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a pris.
Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard, et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Voilà, très belle chanson, hein, qui donne de toujours, l'espoir.
Comme de toujours, l'espoir, avec Grand Corps Malade.
Avec Grand Corps Malade.
Belle plume, vraiment. Ouais.
Ouais, c'est magnifique. Voilà, donc on va parler de la situation des migrants en Libye, hein, qui n'ont pas beaucoup d'espoir, et j'espère qu'ils arriveront un jour à rechanter aussi. Voilà, donc lors de l'annonce du nouveau pacte asile et immigration le 23 septembre dernier, la Commission européenne a encore martelé que la coopération avec les pays tiers était une pierre angulaire de la politique européenne sur l'immigration. Or, l'Union européenne ne peut plus cautionner de tels agissements en continuant sa coopération avec la Libye. En effet, notre nouveau rapport dresse un terrible constat et apporte de nouvelles preuves que les personnes réfugiées ou migrantes sont prises au piège dans un terrifiant cycle de violence en Libye. La liste des violences est insoutenable. Homicides, disparitions forcées, viols, travail forcé, enlèvement, détention arbitraire, hommes, femmes, enfants, personne n'y échappe. Des atrocités bien connues de l'Union européenne, qui continue pourtant de collaborer avec la Libye. Elle fournit des vedettes rapides et forme les gardes-côtes libyens pour intercepter et ramener en Libye toutes les personnes qui tentent de fuir le pays. Depuis 2016, 60 000 femmes, hommes et enfants ont ainsi été capturés en mer et débarqués en Libye. Cela fait des années que nous démontrons qu'après avoir débarqué en Libye, les personnes exilées se retrouvent systématiquement enfermées dans les centres de détention officiels. Aujourd'hui, nous constatons que des personnes sont aussi enfermées dans des lieux de détention non officiels, dont un centre, appelé la manufacture de tabac en raison de son ancienne affectation, est placé sous le contrôle d'une milice. Nous ignorons ce que deviennent la plupart de ces personnes, ni si elles sont encore en vie. Plusieurs dizaines de personnes réfugiées ou migrantes ont dit à Amnesty International avoir assisté à la mort de proches pendant leur détention dans des centres officiels ou dans des lieux où elles étaient retenues en captivité par les trafiquants. Ces décès ont fait suite à des violences par armes, à feu, des actes de torture, des problèmes de malnutrition ou un manque de soins. Dans ces centres de détention, les femmes et les filles subissent des viols et des violences sexuelles. Plusieurs femmes ont témoigné avoir été violées et forcées à se prostituer. Elles ont été libérées quand leurs familles ont payé des rançons. Compte tenu du fait que les autorités libyennes ne remédient toujours pas aux violences persistantes commises contre les réfugiés et les migrants, y compris par des agents gouvernementaux et par des milices affiliées au gouvernement, l'Union européenne et ses États membres doivent totalement revoir leur coopération avec les autorités libyennes. Aucune aide supplémentaire ne doit être fournie matériellement ou financièrement à la Libye tant que les terribles violences infligées aux réfugiés et migrants continuent. Pour l'heure, toute personne secourue ou interceptée en mer Méditerranée ne doit pas être envoyée en Libye. La Libye est aujourd'hui un enfer et non un pays sûr. Voilà le cri d'alerte d'Amnesty International. Vous pouvez aller sur le site d'amnesty.fr. Et vous avez des pétitions à signer dans ce sens. Voilà, on va écouter maintenant la chanson d'un de mes cousins qui s'appelle Jean-Guy Coulanges. Sa chanson s'appelle « Lettre ».
Presque rien, on nous a emmenés. Pour avoir trop aimé une lettre perdue, parfois pour rien, on nous a arrêtés. Je t'écris pour te dire adieu. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. J'aimerais tant qu'on s'aime encore. Je jure que la mort finira. L'herbe repousse après les pas. Il est des mauvaises saisons. Enfants, que les saisons reviennent un jour. Oh mon amour, pour la lampe allumée. Et par la force, on nous a fait parler. Pour avoir renoncé, pour avoir dénoncé, dans le silence, on nous a bâillonné. Je t'écris pour te dire adieu. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. J'aimerais tant qu'on s'aime encore. Je jure que la mort finira. L'herbe repousse après les pas. Il est des mauvaises saisons. Aux enfants que
Voilà, donc maintenant on va un petit peu parler des activités du groupe Dinois. Donc vous savez que vous pouvez toujours assister à une de nos réunions. C'est le dernier mardi de chaque mois à 18h dans les salles des associations de la mairie de Digne. Hein. Donc vous avez le grand bâtiment de la mairie, vous avez la salle de l'atrium. Et à droite de cette salle, en regardant le bâtiment, vous avez une porte qui donne accès aux salles de réunion. Et là, à l'accueil, vous demandez où se trouve, dans quelle salle se trouve Amnesty International. Et vous nous rejoignez bien volontiers. Donc, c'est dernier mardi de chaque mois à 18h, salle des associations. Bon, alors, ce qu'on va faire, donc, je vous ai parlé de notre foire aux livres. Hein, nous n'avons pas pu la faire au printemps. Donc ça fait un an hein, qu'on n'a pas pu faire de foire et on est content de pouvoir la faire le vendredi 9 octobre, donc ce vendredi, et le samedi 10 octobre, donc salle de l'Atrium, à côté de la mairie de Digne. Nous allons ouvrir cette foire aux livres le vendredi matin, exceptionnellement, de 9h à 12h. Et puis l'après-midi du vendredi, de 14h à 19h30, hein, on reste ouvert longtemps pour les gens qui travaillent, qui veulent venir après leur travail. Et puis le samedi 10 octobre, le jour du marché, nous serons ouverts de 9h à 18h sans interruption, ce qui veut dire que vous pouvez venir aussi entre midi et 2, il y a moins de monde hein, d'ailleurs. Et vous verrez que nous avons énormément de nouveautés, parce que pendant cette crise, on a continué à nous donner des livres et nous allons apporter tous ces nouveaux livres. Vous verrez qu'on va mettre un peu moins de livres que d'habitude pour éviter qu'il y en ait trop sous les tables, etc. et permettre une circulation plus facile des personnes afin de pouvoir respecter comme il faut les gestes de protection. Bien sûr, obligation à l'entrée de se laver les mains et de porter un masque. Et une fois à l'intérieur, ben, vous pourrez donc signer nos pétitions et puis choisir de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Et vous verrez, il y a un peu pour tous les goûts, hein, c'est classé en livre de poche, histoire, roman, géographie, aventure, science, voilà, éducation, livres pour enfants, bande dessinée. On a aussi des CD, des DVD. Voilà, donc venez nombreux hein, et on essaiera qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle. Donc peut-être vous pourrez faire une petite attente, mais voilà. Il y aura beaucoup, beaucoup de livres. Donc je vous rappelle, vendredi 9 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Samedi 10 octobre, de 9h à 18h, salle de l'Atrium à Digne-les-Bains. Avec Amnesty International, sa célèbre foire aux livres. Voilà, sinon, ben, on est en train de relancer l'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Donc, il y a des jeunes qui sont motivés hein, pour faire des actions dans le lycée, des actions d'éducation aux droits humains notamment. Le 8 octobre, nous allons participer au forum des associations au Sacré-Cœur. Donc, chaque année, les lycéens du Sacré-Cœur sont invités à choisir une association pour laquelle ils vont donner un peu de leur temps, 5 heures minimum dans l'année. Et donc, ce 8 octobre, les associations viennent se présenter. Donc, chaque année, le lycée nous appelle pour présenter Amnesty International. Et chaque année, nous avons quelques jeunes qui sont d'accord pour se battre avec nous pour le respect des droits humains. Donc on va participer à ce forum en présentant Amnesty aux secondes qui ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, tous les lycéens vont circuler dans les salles où se trouvent des représentants des associations. Et ensuite, ils choisiront l'association qu'ils veulent aider. Voilà, et puis on a prévu, mais là j'aurai le temps de vous en reparler, la venue d'Antoinette Chahine. Antoinette Chahine est une militante des droits humains qui se bat contre la torture et contre la peine de mort parce que, justement, elle a été torturée et condamnée à mort pour un crime qu'elle n'a pas commis. Soutenue par Amnesty International à son procès en appel, elle a été innocentée complètement puisque tout reposait sur des aveux de personnes, aveux qui avaient été obtenus sous la torture. Et donc Antoinette Chahine, depuis, milite partout dans le monde contre la torture et contre la peine de mort. Donc c'est un témoignage qui est très fort et on pense qu'elle va le faire avec l'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles de Gênes et peut-être aussi avec le lycée Alexandra Davinel. Voilà, c'est une personne qui a la médaille de la ville de Digne, hein, qui était déjà venue témoigner auprès du lycée.
Présenter son livre, c'est ça.
Présenter aussi son livre, hein, Crime d'innocence. Et donc, je vous reparlerai la prochaine fois de sa venue. En plus, elle est libanaise, elle pourra vous parler de cette situation terrible que les Libanais vivent, hein, en ce moment, hein, puisqu'elle nous a dit « j'avais vécu... » Ça me rappelle ma sortie de prison, tellement c'était dur, quoi. Voilà, donc elle pourra aussi vous présenter la situation des Libanais, toutes confessions confondues, qui manifestent contre la corruption du pouvoir et qui ont fait face à cette catastrophe qui leur est arrivée. Alors pour terminer, c'est une petite surprise, j'ai trouvé une chanson d'Annie Cordy qui est très différente de ce qu'elle chante d'habitude, mais qui est une chanson très belle, voilà, d'une femme qui revient des camps. On écoute Annie Cordy.
Et puis on se retrouve donc le mois prochain.
Et le mois prochain.
Voilà, dernier lundi du mois, de 16h30 à 17h30. Merci Régis. Et puis donc tout le monde, bien sûr, venez nombreux à la Foire aux Livres ce vendredi 9 octobre de 9 à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi de 9h à 18h à la salle de l'Atrium à Digne. Merci Régis. Au revoir.
Au revoir.
La guerre. La guerre au petit matin. On cogne à la vitre. Debout là, putain. Prends ta valise et vite. Dans l'aurore de juillet, grouillé de flics. Mon Dieu, ces Français, plus pourris que les frites. Ils nous ont parqués au vélodrome. Le soleil crachait sur Israël. Et dans les gradins, nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus. Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus.
Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenu. Et comment on s'en sort? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je suis là, et bien là. Bravo, bravo, j'existe, je persiste à exister, je
la bonne ce soir à l'éternité. Donnez-moi des tonnes de sourires d'enfants et des sommes taillées dans les volcans. Ah, bravo, bravo. Et tant pis si parfois je pense encore. J'ai baisé ces fils de pute et je leur crache au mirador. Ce bâtard du diable, ce chien autrichien, je l'emmerde dans son enfer chrétien. Ah, bravo, bravo, je vous jure que je ne vous oublierai pas. De mon étoile jaune là-haut, je veillerai sur vous en bas. Pleurez pas, mes chéris, sur ma terre promise. J'aurai votre amour dans ma valise.
Tu veux dire jusqu'au bus et des bus au wagon, des wagons jusqu'au camp terminus.
J'ai fait partie des vénards, de ces sacrés vénards qui ont revu leur gare.
Des bus au wagon, des wagons jusqu'au camp.
Thank you.